Moi, aujourd'hui, je suis à 500 euros de l'heure.
Combien
500 euros de l'heure.
C'est un objectif pour toi d'être multimillionnaire?
Ouais. Moi, j'ai grandi dans une famille, il n'y a pas d'entrepreneur dans mon entourage. Donc, générer de l'argent par soi-même, c'est un concept qui est aliénique, hein, tu vois.
Bonjour et bienvenue sur Les Rois du Scale. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir la première ministre du Scale, Maud Alaves. Alors Maud, rentrons directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter ?
Ouais, merci déjà de m'avoir invitée. Donc Maud Alaves, je suis coach en personal branding et je suis aussi créatrice de contenu sur différents médias, LinkedIn, YouTube, newsletter et Instagram aussi.
Ok. Alors là, c'était... Alors Maud, il faut savoir qu'elle ne parle pas énormément. Donc là, c'était son intro extensive de elle. Donc, créatrice de contenu et coach en personal branding, c'est ça ? Qu'est-ce que ça veut dire, coach en personal branding ?
C'est une bonne question. Ça veut dire plein de choses. C'est la meilleure manière que j'ai trouvé de résumer ce que je faisais aujourd'hui. Mais en gros, je dirais que je vais accompagner des CEO, des freelance premium à développer leur e-réputation. Donc, à comprendre comment être visible sur les réseaux sociaux, normalement. Et ça peut s'appliquer à plein de réseaux et plein de plateformes. Donc LinkedIn, newsletter, Instagram.
Qu'est-ce que etc. c'est le personal branding ?
Alors le personal branding, personal branding, c'est la capacité à maîtriser ce que les autres vont penser de vous. On dit en rapide.
Donc c'est-à-dire que toi tu vas aider les gens à prendre la parole pour orienter ce qu'ils vont penser de toi, c'est ça ?
C'est exactement ça. En gros, c'est plus long. Comment développer une crédibilité ? Comment faire en sorte à ce que les gens t'associent à un certain concept, à certaines idées, à une certaine image ? Qu'est-ce que les gens vont dire de toi quand t'es pas dans la pièce, tu vois ? C'est ça le personal branding. Et en fait, à quoi ça sert, on pourrait dire ? C'est la même chose que le branding pour les marques. C'est l'idée de se faire reconnaître et d'être top of mind, tu vois. Donc en gros, que peut-être qu'on n'a pas besoin de toi au quotidien. Tu vois, si t'es copywriter, par exemple, on sait que t'es copywriter. Tout le monde a compris que t'étais copywriter. On n'a peut-être pas besoin de toi dans l'immédiat. Mais le jour où on a besoin d'un copywriter, en fait, il y a un seul nom auquel on pense et c'est le tien. Et c'est ça, en fait, l'idée du personal branding.
Et pourquoi les CEO de start-up en business ? Alors, tu vois, je pense plutôt à... Ok, t'es 50 Cent... T'es Brad Pitt, t'es Oprah Winfrey, c'est cool. À quoi ça sert pour un CEO de start-up ?
Ben, pour un CEO de start-up, en fait, c'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est nouveau alors que ça a toujours servi, tu vois, ça a toujours été le cas. Juste dans des marques qu'on pensait moins avant, donc par exemple, genre Chanel. Chanel, Yves Saint Laurent, tu vois, les marques dans la mode, historiquement, elles ont toutes été promues par le personal branding du fondateur. À la base, les gens, ils achetaient pas les fringues de la marque Coco Chanel, ils achetaient la vision de la créatrice Coco Chanel. Et en fait, c'est un peu comme ce que Simon Sinek il dit, tu vois, on n'achète jamais ce que tu fais, on achète pourquoi tu le fais. Et en fait, ça, c'est les fondateurs qui sont les meilleurs pour communiquer cette vision-là, tu vois, aujourd'hui. Et c'est aussi le moins coûteux. Parce que finalement, qu'est-ce que tu as comme opportunité ? Tu vois, quand tu es une start-up, en fait, tu n'as peut-être pas un budget média immense, tu peux peut-être pas placarder, tu vois, les bureaux, enfin, pas les bureaux, mais quai d'opéra, tu vois, tous les jours non plus. Du coup, qu'est-ce que tu fais, en fait ? Ben, communiquer sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est gratuit. Ça coûte du temps, certes, mais c'est le seul moyen de communication qui est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer une agence de communication des 100 000 euros, etc. Et en fait, c'est quand même le moyen de faire de la visibilité au même titre qu'une pub à la télé. Tu vois ? Donc, le retour sur investissement, il est quand même assez énorme, quoi. Tout ça avec des posts LinkedIn, par exemple.
Qu'est-ce qui leur manque ? Pourquoi ils ne peuvent pas le faire eux ? Et pourquoi ils ne peuvent pas le déléguer en interne ?
Ben, en fait, ils pourraient le faire eux. Il y en a plein qui le font eux. Justine Hutto, par exemple, elle le fait toute seule.
Tu penses ?
Guillaume Aubèche. Ouais, je pense que Justine Hutto, elle le fait toute seule. Je pense qu'elle se fait accompagner sur certains postes, peut-être, qui sont faits par sa boîte. Mais à mon avis, les premiers, de toute façon, elle l'a fait toute seule. C'est évident, tu vois. Ils étaient deux enfin, 3, 4, tu vois, elle a commencé toute seule, elle a commencé tout de suite, elle était déjà à 20K abonnés sur Instagram avant de lancer Respire. Guillaume Moubèche aussi, Grégoire Gambato, il s'est fait connaître comme ça, Mathieu Stéphanie, tu vois, il fait ses posts, donc il y en a plein en fait des fondateurs qui font leur contenu déjà tout seul. Je pense que ce qui bloque les autres, c'est finalement comme n'importe qui d'autre, hein, c'est pas uniquement le cas des CEO, ça va être des blocages psychologiques, donc la peur du jugement, que va-t-on penser de moi, qu'est-ce que les autres vont dire, il y a peut-être plus d'enjeux aussi quand t'es fondateur, tu peux pas en fait, t'as pas droit à l'erreur, tu vois, tu peux pas être fondateur de L'Oréal et faire un post qui fait 10 likes, tu vois, c'est pas possible. Donc en fait il y a beaucoup plus d'enjeux, ils ont pas le droit à l'erreur, alors que un freelance qui démarre, personne l'attend, tu vois, il peut facilement en fait démarrer avec 10 likes.
Et ça coûte combien du coaching en personal branding?
Ouais.
En branding,
ça dépend des profils, tu vois. Ça dépend des gens. Si la question c'est moi combien je coûte, moi aujourd'hui, je suis à 500€ de l'heure. Et,
combien?
Combien? 500€ de l'heure. Et les packs de démarrage, du coup, sont à 2500. C'est-à-dire que je ne fais pas en dessous d'un mois pour démarrer.
Ok.
5 sessions. Je pense que c'est le minimum nécessaire.
J'ai une question sur le prix. Comment ça se fait que... Tu vois, j'ai eu Nina Ramen l'autre jour sur le podcast et elle m'a donné le même prix pour le coaching. D'où ça vient ce prix plancher pour les solopreneurs en coaching de 500€ de l'heure? C'est un prix qu'on voit beaucoup. Qu'est-ce que... Déjà, c'est un prix qui est surprenant parce qu'il est haut. C'est un prix, tu vois, c'est plus cher que certains avocats, que les médecins, etc. On se dit c'est surprenant pour de la communication quand même. Donc première question, d'où ça vient cette lubie pour 500€ de l'heure de beaucoup de gens? Pourquoi ce prix? Pourquoi ce prix plancher? Et la deuxième question, c'est quels sont les ingrédients qui t'ont amené à pouvoir facturer ça et faire accepter ce prix?
Déjà, je serais curieuse de savoir pourquoi tu dis qu'il est visible beaucoup partout. Moi, je ne l'ai pas vu tant que ça. En fait, je pense qu'on est un peu dans une bulle, tu sais. On a l'impression que tout le monde est à 500€ de l'heure, mais en fait, on est trois, quoi.
Qui?
Trois, quatre, Manina, toi, moi. qui d'autre, tu vois, en fait, se vend à 500€ de l'heure en France, dans le métier qu'on fait, je pense qu'on n'est pas énormément, tu vois, de solopreneurs qui se mettent à ce prix-là. Ça doit se compter sur les poignées de main. Après, je n'ai pas une vue globale sur les tarifs de tout le monde, tu vois, c'est pas très transparent. Mais en tout cas, je pense que la communication qu'on fait là-dessus a beaucoup plus de place que peut-être la réalité du marché, tu vois. Donc après, d'où ça vient, j'en sais rien. Je pense qu'il y en a un qui a commencé à ce prix-là, on a vu que c'était possible, et puis du coup, on a suivi. Moi, dans mon cas, par exemple, c'est ça, j'ai vu... tu vois, j'étais pas la première à fixer ce prix-là. Tu l'as fait avant moi, Nina Ramel l'a fait avant moi aussi. J'ai vu que ça se vendait. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? J'ai testé, j'ai vu que j'arrivais à vendre aussi à ce prix-là. Et du coup, bah, ça veut dire qu'il y a des gens qui voient de la valeur à ce prix-là. Et pour moi, le prix, en fait, il n'est pas forcément fonction de tes compétences. Tu vois, c'est un truc que j'ai mis longtemps à comprendre, mais quand je l'ai compris, ça m'a permis de tout débloquer, tu vois. En fait, il est vraiment fonction de plus de la valeur perçue. Donc tant que tu trouves quelqu'un en fait qui lui a vraiment besoin de tes services et qui est prêt à mettre le prix, tu vois, bah dans ce cas-là, faut y aller, hein. Go for it. Si tu peux délivrer derrière aussi, bien sûr.
Dans ta progression en termes de pricing, t'as commencé où? T'es passé par quoi? Jusqu'à 500€ de l'heure.
J'ai commencé à 50€. Le premier coaching que j'ai vendu, je l'ai vendu à 50€ de l'heure. Je me rappelle, c'était un été. C'est un mec, je savais même pas que je pouvais vendre du coaching. À l'époque, j'étais soi-disant la CEO du Social Life Club.
Ouais.
Je sais pas si tu te rappelles de ça.
La CEO d'une boîte qui fait pas de chiffre d'affaires.
La CEO d'une école qui a même pas d'étudiants. Mais bon. Donc du coup, je communiquais pas sur le fait que, tu vois, je faisais du coaching, etc. Et il y a une première personne qui est venue à moi en me disant, est-ce que tu le fais? Et donc là, bah, comme tout entrepreneur, je pense qu'il se respecte. quand on donne, tu vois, quelqu'un vient avec une liasse de billets et dit « Est-ce que tu veux prendre mon argent ?» Bah, en fait, tu le prends et t'exécutes, tu vois. Du coup, j'ai pris. Et je lui dis, bah voilà, moi, ce sera 50 euros, parce que je ne savais pas du tout comment faire du coaching, qu'est-ce que ça allait donner, etc. Donc, j'ai fait mon premier truc comme ça. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai eu de plus en plus de gens comme ça qui sont venus à moi, naturellement, me demandant si je faisais du coaching. Donc, au bout d'un moment, j'ai commencé, c'était en août de l'année dernière, à officialiser le tout. Donc, j'ai réfléchi à une offre, tu vois, je l'ai packagée. Là, c'était à 120 euros à peu près de l'heure. J'ai fait une vidéo YouTube pour annoncer le truc. Et puis là, j'ai commencé à vendre les premiers packs. Et puis très rapidement, en fait, j'ai commencé à augmenter. Donc au début, j'augmentais tout petit. En fait, j'augmentais de 120 à 150. C'était déjà pour moi, je me disais waouh! Wow.
L'orteil dans l'eau.
Ah, je me disais putain, c'est ouf, j'arrive à voir, j'arrive à vendre, tu vois, ça me semblait dingue. Moi, dans ma tête, en fait, j'avais le référentiel à l'époque de Christopher Piton qui vendait 250 de l'heure. Et du coup, je me disais, bon, bah, tu sais, lui, il est expert depuis bien plus longtemps que moi, il s'y connaît, donc en théorie, je devrais être un peu en dessous. Et puis j'ai augmenté comme ça jusqu'à 200. Et puis en fait, il y a un moment où je pense que voilà, je me suis rapprochée des personnes qui, elles, avaient pas du tout les mêmes blocages psychologiques. Donc toi, par exemple, et Nina Ramen. Et franchement, quand je les ai vus, donc quand je vous ai vus vendre. Tu vois, 100, 200 euros plus cher, 300 euros plus cher, et qu'en fait, on n'était pas si éloignés que ça en termes de compétences, je me suis dit, bah, putain, la seule chose qui me bloque, c'est juste moi dans ma tête, quoi, ouais. Tu vois. Et du coup, bah, en vrai, ça a mis un an en total. Donc, je dirais qu'à chaque nouveau client, donc tous les mois, j'ai augmenté un petit peu.
Et tu vas continuer à augmenter ?
Je sais pas, là je t'avoue que 500, tu vois, alors c'est peut-être encore un blocage psychologique hein, qui parle.
Bah si je te dis, le prix plancher. Hein.
Ouais, 500, ça me semble quand même déjà pas mal. Difficile d'aller au-delà. Je pense que pour l'instant, j'ai plus envie d'explorer d'autres formats que le coaching, tu vois. Je pense que là, j'ai passé un an à bien explorer cette piste-là, à bien la perfectionner, on va dire, à la structurer, etc. J'ai compris comment ça fonctionnait, ça rentre, ça tourne tout seul, tu vois. Et je pense qu'après... je vais passer à d'autres sources de revenus. Je reviendrai sur celle-là, peut-être éventuellement plus tard. Mais je pense que là, il me manque peut-être l'expérience pour augmenter la valeur perçue.
Aujourd'hui, c'est quoi les différentes manières de gagner de l'argent ?
En tant que solopreneur ?
Pour toi, celle que tu as actuellement ?
Pour moi ?
Ouais.
Alors, pour l'instant, j'ai le coaching qui fait 75% du revenu, je dirais 70%, tu vois. Donc, c'est vraiment la piste de revenu numéro 1. Après, j'ai le manuel LinkedIn qu'on partage.
L'adresse est supermanuel.co.
C'est ça. Bon, en gros, là, pour te faire un petit plan, là, je vais finir l'année à environ, mon estimation, c'est 150K. Il y a un peu plus de 100K qui est pour le coaching. Un peu moins de 50K pour le manuel LinkedIn. Et il y a quelques, tu vois, peut-être milliers qui se baladent, donc pas plus de 10K, qui sont d'autres pistes, donc du sponsoring, par exemple, que je commence à explorer. Des journées de formation qui sont vendues comme ça, des masterclass, des ateliers, des trucs un peu qui sont à côté, quoi, que okay. Je développe.
Et donc là, cette année, tu prévois combien en 2022 ?
150.
150, ok. 2023 ?
300.
2024 ?
J'aimerais bien 700.
2025 ?
1 million.
Ok. Ouais, donc t'es en croissance, quoi.
En théorie, oui.
Et après,
l'année dernière, j'ai fait 40 000, tu vois. Donc je me dis, bon, bah, je suis sur un rythme 2x3. Si on regarde une courbe basée sur un an d'analyse, voilà, quoi.
Quel est ton plan de développement là-dessus ?
Alors, je peux te dire pour l'année prochaine, parce que j'ai de la visibilité mentale, on va dire, tu vois, j'arrive à le concevoir jusque-là. Après, on verra ce que ça donne. Mais en gros, là, tu vois, comme je te disais, bah, j'ai la majorité du revenu qui est dû au coaching, quoi. Donc ça, c'est une piste de revenu que j'ai bien travaillé, j'ai mis un an, mais je pense que l'année prochaine, ça peut me faire 150K tout seul. Après, j'ai le manuel LinkedIn. Si on le pousse un petit peu, toi et moi, qu'on réfléchit à des stratégies. On peut éventuellement en faire 50K, tu vois, tout rond. Donc, ça fait bien 200K déjà. Et après, là, j'ai commencé à explorer. Donc, j'ai le sponsoring sur la newsletter. Donc là, j'ai commencé à vendre mes premiers espaces sponso. Donc, pour l'instant, c'est en phase de test, tu vois. J'ai mis ça à un petit prix, genre 1 000 € par mois, tu vois. Ça fait que 12K, tu vois, à l'année. Mais je pense que l'année prochaine, je peux arriver à un petit peu plus. Donc, je peux arriver à peut-être un 25-30K qui serait vendu comme ça, quoi. Je suis en train de bosser sur un livre en ce moment qui s'appellera L'art de se démarquer sur le personal branding. Il devrait sortir en début d'année prochaine. Donc ça, je pense que ça me permettra d'explorer aussi les conférences, tu vois. Ouais. Donc ça peut peut-être faire aussi 10K en plus. Bref, on arrive entre les newsletters et puis les conférences à 50K. Mmh. Et du coup, il reste 50K à trouver pour faire 300. Et ça, pour moi, ça sera les bootcamps.
Ok. C'est intéressant parce que là, le plan est clair. Parce que moi, quand les gens me disent comment tu vas arriver à ton niveau de CA, et je vais dire, alors, j'ai pas toutes les sources de revenus, j'ai pas tout le plan, mais on va être créatif.
Après, ce que je dis, c'est qu'entre le plan et ce qui va se passer, tu vois, on sait pas. Mais en tout cas, je le conçois. Tu vois, je sais que c'est possible, et après, on verra comment ouais. ça se déroule.
C'est un objectif pour toi d'être multimillionnaire ?
Ouais.
Pourquoi ?
C'est une bonne question qu'on me pose souvent. J'arrive pas toujours à savoir exactement pourquoi. Je pense que, tu sais, il faudrait peut-être que j'en parle à ma psy pendant 10 heures
pour t'es comprendre. T'es une psy ?
Ouais, j'ai une psy depuis okay. pas longtemps. Pour comprendre vraiment le pourquoi du comment, tu vois. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre. C'est que j'ai décidé, il y a quelques années quand même, que je voulais être riche pour payer ma flemme, tu vois.
J'adore.
En fait, j'ai vraiment pas envie de m'embêter avec les complexités de la vie. Pour moi, je pense que j'ai peut-être trop conscience de la mort, tu vois, je crois pas en Dieu, ni en la vie après la mort, ni en la réincarnation, par exemple. Donc pour moi, mon temps, il est compté et j'ai envie de profiter vraiment de chaque instant et j'ai pas envie d'être limitée, tu vois. J'ai pas envie qu'on me dise « tu vivras jamais ça de ta vie parce que t'as pas les moyens », tu vois. Ça, pour moi, c'est inconcevable de vivre comme ça. Et donc, j'ai trop conscience de chaque minute qui passe, tu vois, pour arriver à ce stade-là. Donc par exemple, tu vois, je fais plus la cuisine, je fais plus mes courses, je fais plus mon ménage... Parce que j'ai trouvé un moyen de le déléguer et qu'aujourd'hui j'ai les moyens, tu vois, de me le permettre. Et parce que pour moi, c'est des choses qui n'apportent aucune satisfaction et j'ai pas envie de passer une minute de ma vie à m'occuper de choses qui m'apportent ni satisfaction, ni compréhension du monde, tu vois, qui m'éduquent pas, qui me challengent pas, qui me font pas évoluer en fait.
C'est très Naval ça. Naval, il disait, il avait dit, la plupart des gens. Dépense du temps pour trouver de l'argent, alors qu'il devrait dépenser de l'argent pour trouver du temps. Mm. Tu sais, je pense à quelqu'un de ma famille qui, un jour, il m'a... en gros, il avait acheté hein, quelque chose qui était à, je sais pas, 20 €. Il avait fait une demi-heure de route. Allez, une demi-heure de retour. Et... ça lui a coûté 20 €. Et le truc marchait pas. Il était hors de lui. Il s'est dit, c'est du vol, je me suis fait 40-20 € et tout. Et il voulait retourner au store pour se le faire remplacer ou rembourser. Je lui ai dit, est-ce que tu te rends compte que tu vas perdre 2 heures pour avoir acheté un truc, tu vas te le faire rembourser pour 20 €? Est-ce que tu te rends compte que ça veut dire que tu estimes la valeur de ton temps à 10 €? Alors, ça l'a mis hors de lui. Et il m'a dit, ça c'est de la nouvelle génération, vous faites que gaspiller, vous n'avez pas de valeur de l'argent. Alors là, j'ai arrêté le débat et je lui ai dit, oui, tu as raison. Parce qu'en fait, si la conversation avait continué, je lui ai dit, bah, c'est peut-être toi qui n'as pas de valeur de ton temps. Tu vois. Et c'est très Naval Ravikant comme approche, tu vois. Lui, sa phrase était, hors de votre zone de génie, vous devez tout outsourcer, automatiser ou ignorer.
Ouais. Je me rappelle de ce post LinkedIn que tu as fait, oui.
Ah, j'ai fait ça.
Ouais. À ce sujet-là. Après, ça me fait penser, tu vois, aussi, par exemple, je préfère acheter... en fait, moi, je fais toujours un calcul de rentabilité, tu vois. Soit sur la longueur du temps. Et en fait, je vois le temps très long. Je pense vraiment très long terme. Donc, tu vois, par exemple, ma mère, elle est toujours outrée que je m'achète des fringues qui coûtent super cher, si je peux.
C'est quoi super cher ?
Bah, tu vois, il n'y a pas longtemps, là, j'ai acheté un pull en cachemire de Eric Bompard. Ils sont à 420 euros.
Ok.
C'est vrai que c'est cher. Pour un pull en cachemire, alors que tu en trouves chez, je sais pas, chez Uniqlo, tu vois, ils sont à 70 euros, quoi. Mm. J'en ai acheté chez Uniqlo aussi à 70 euros. La différence, c'est que, ben, tu vois, il y a des pulls en cachemire que j'ai depuis que j'ai 20 ans. Là, j'ai 30 ans, donc ça fait 10 ans que je les ai. Et c'était ceux qui coûtaient le plus cher. Donc en gros, tu vois, j'ai payé 420 euros, mais étalé sur 10 ans. Alors que ceux que j'ai achetés de chez Uniqlo à 70 euros, en général, ils me durent un an. Entre deux, ils font des bouloches, ils se prennent un trou, ou ils se prennent un truc. Bref, donc en gros, il faudrait que j'en achète un tous les ans. S'étale ça sur 10 ans, ça te fait 700 euros, tu vois. Donc en fait, t'es à 300 euros de plus de dépenses au final, quoi. Donc en gros, tu vois, sur le calcul de... est-ce que parfois, tu vois, il faut pas payer plus cher aussi pour voir les choses sur le long terme, qui revient un peu à la notion de est-ce qu'on jette, tu vois, ou pas, comment on voit le prix, etc. Tu vois, bah, moi, je vois ça comme ça, quoi. Et donc, pour ça, bah, en fait, il faut être riche, quand même.
Si l'an prochain, ton business, il explose, et tu rentres 5 millions, qu'est-ce que tu changes à tes habitudes ?
Qu'est-ce que je change? En fait, je me rends pas compte, tu vois, de ce que ça fait 5 millions encore sur mon compte en banque. Et faudrait voir combien j'ai de charges, etc. Enfin, tu vois, 5 millions en CA, ça...
Ok, bah imaginons 5 millions. Pas, imaginons que tu arrives à te REM à 2 millions.
Ok, donc étalé sur les mois, ça fait quoi? Ça fait 200 000 euros à peu près.
Ouais.
Par mois, ça fait beaucoup, quoi. Qu'est-ce que je changerais dans mon quotidien? Je pense que déjà, je me prendrais un cuisinier, tu vois. Ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu avoir. Un cuisinier. Parce que... en fait, moi, le truc, c'est que... Tu vois, c'est qu'en fait, juste, ça m'ennuie, quoi, de faire à bouffer. Je comprends pas le concept, tu vois. J'aime bien faire à manger avec des gens. Quand ça devient un moment social, et ouais. Du coup, l'activité, c'est pas se nourrir, en fait, mais c'est passer un moment avec d'autres personnes, tu vois, et faire à manger avec eux, tu vois. Là, j'aime bien, mais genre, moi, toute seule dans mon salon, découper des légumes, alors que je pourrais être, tu vois, en train de créer un post LinkedIn ou en train de réfléchir à mon business ou de lire un bouquin, tu vois, je vois pas l'intérêt, en fait, de découper des légumes. Donc, mais pour autant, c'est important pour moi de bien manger. Je m'ennuie assez vite, tu vois. Donc, en fait, quelqu'un qui me ferait à manger, je pense que ça serait le meilleur moyen, tu vois, d'avoir, bah, de manger sain, de manger varié, sans le faire. En plus, il ferait les courses. Mm. Ça s'accumule deux avantages, tu vois. Ça serait vachement bien. J'aimerais bien un chauffeur aussi, dans l'idéal.
Olé.
Parce que, pareil...
De jet
on n'y est pas encore, à 5 millions, t'as pas assez, tu vois.
Non.
On est tout au plus.
C'est une blague, pour les auditeurs, c'est une blague. On est écolo, c'est une blague.
Non, mais un chauffeur, en vrai, tu vois, bah, moi, j'ai pas le permis, j'ai pas prévu de l'avoir... a priori, parce que j'en ai pas spécialement besoin, et puis en plus, si j'ai un chauffeur, tu vois, j'en aurais pas besoin encore plus, quoi. Après, en vrai, je me déplace pas des masses, donc je sais pas, tu vois, si j'aurais besoin de ça, mais juste pour le kiff, tu vois, d'avoir peut-être pas un salarié quotidien, mais quelqu'un qui soit un chauffeur privé que je puisse prendre, comme ça serait assez cool. Après, je pense que je ferais des investissements immobiliers, tu vois. Mais au final, je sais pas si ça changerait vraiment, tu vois, grand chose à mon quotidien. Je pense que juste, en vrai, je continuerai à faire la même chose, mais juste peut-être à un level, tu vois, un petit peu au-dessus, quoi.
Ouais. Tu m'avais pas dit que tu aimais bien aussi les spa treatments?
Ah si.
Les si, massages. Si,
ouais. Ouais, peut-être que j'aurais, tu vois, une masseuse attitrée, coiffeur attitré qui viendrait tout le temps, tu vois. En fait, pour moi, c'est que des trucs, justement, c'est que des choses du kiff, tu vois. Peut-être que, je sais pas, je dépenserais, tu vois, peut-être que je me paierais une Marie Kondo qui viendrait ranger tout mon appartement. Parce que j'adore ça aussi, tu vois. Peut-être que j'investirais dans de la déco. En fait, je pense que juste j'essaierais d'améliorer mon bien-être au quotidien. Et pour moi, l'amélioration de mon bien-être, ça passe par améliorer mon environnement. Donc, tu vois, la déco, mon appartement, celui dans lequel je vis. Améliorer le temps. Donc, le temps, donc voilà, comme je te disais, de ne pas passer du temps dans des choses qui ne me font pas plaisir, tu vois. Et puis après, passer des moments avec mes amis, ma famille, tout ça. Et puis continuer à travailler, quoi, dans des meilleures conditions, faire des choses qui me plaisent, tu vois.
C'est un truc qui t'attire, les beaux hôtels, les beaux restaurants ?
Ouais. Ouais.
Genre Four Seasons, les 3 étoiles Michelin.
Ouais. En fait, je sais pas trop ce qui m'a donné, c'est vrai, le goût de la richesse comme ça. Mais j'ai fait du mannequinat, tu vois, pendant 4 ans. Et c'est vrai que ce que je retiens de cet univers-là, c'est que, en fait, t'es vraiment en contact du luxe, tu vois, pendant 4 ans. Mais t'es pas dedans. T'es pas dedans, t'es à côté, tu le vois, tu le touches, mais tu l'es pas. Et je pense que ça a développé une petite frustration chez moi, tu vois, aussi, de j'ai envie de l'être. J'ai le sentiment que c'est une première montagne qu'il faut que je passe, tu vois, d'avoir de la fuck you money au point de pouvoir dire comme ça, après je m'en bats les couilles du reste, tu vois. Et une fois que je l'aurai dépassé, je dirais bon, ok, voilà, j'ai compris, effectivement ça sert à rien, ça m'amène pas plus de bonheur que qu'autre chose, mais au moins je l'aurais fait, tu vois. Et je me serais prouvé que je suis capable de le faire, je suis capable de générer autant de richesses. Et du coup, ça veut dire aussi que j'aurai de l'impact, tu vois. Je pense que c'est plus ça, en fait. C'est de la recherche, finalement, de la reconnaissance aussi, de te prouver, tu vois, de quoi t'es capable, de te challenger. Tu vois, moi, j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin d'évoluer constamment, en permanence. Aujourd'hui, la métrique, c'est l'argent. Mais demain, ce sera peut-être autre chose.
T'as dit un truc sur la... T'as parlé de la première montagne. C'est un concept que j'aime bien. Il y a une blague que j'aime bien faire, c'est... Les CEO de start-up américains, quand ils vendent leur boîte 10 millions, derrière, ils se reconvertissent philosophe sur Twitter. C'est-à-dire que tu as parlé de la reconnaissance, etc. Et tu as dit, c'est un objectif, je me rendrais peut-être compte que ce n'était pas le but. Et en fait, je pense que c'est la différence entre un objectif et une fin. C'est-à-dire que, genre, devenir, avoir du cash, c'est genre une milestone, c'est une étape. Mais tous les gens qui ont un max de cash, ils te disent que quand tu arrives là, en fait, tu te dis so what, tu vois. Et souvent, ils te parlent beaucoup de santé. En fait, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils te parlent beaucoup de santé. À la fin, ils font des trucs de ouf pour garder la santé, quoi. Warren Buffett avait une phrase comme ça, il disait si tu disais à chaque milliardaire, je t'offre 10 ans pour retourner en arrière, par contre, tu retournes à zéro. Le nombre de milliardaires qui choisiraient les 10 ans, il est de 100%. Donc c'est toujours ça, le temps, la santé, le bonheur. Et le deuxième truc, c'est que tu m'as parlé de fuck you money. Qu'est-ce que c'est la fuck you money?
Bah ça c'est un concept, c'est toi qui m'en as parlé la première fois que je l'ai entendu. C'est vraiment l'idée, c'est de se dire c'est le seuil au point duquel t'es tellement riche, t'as tellement d'argent que tu peux envoyer tout bouler, quoi. Tu peux dire non à tout le monde, tu peux tout arrêter, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Et je pense que je m'arrêterai jamais vraiment de travailler, tu vois, même si j'avais des millions et des millions, parce que effectivement, comme tu dis, c'est pas une fin en soi, tu vois. Genre, j'aspire pas à devenir tellement riche au point que je vais me retrouver sur une île et puis partir à Ibiza et puis rien faire de mes journées, tu vois.
Ça m'a toujours déprimé.
Ouais. Non, j'ai juste envie de. Enfin, tu vois, je pense que tout le monde, dans le fond, aspire à. Enfin, le luxe, ça fait rêver, tu vois, vraiment tout le monde, quoi. Juste qu'il y en a peut-être certains qui se sont contraints à se dire, enfin résignés, se dire qu'ils n'y arriveront pas. Et jamais. Et du coup, ils préfèrent se dire, bah non, en fait, c'est pas ça le bonheur, tu vois. Mais si tu donnais l'occasion à n'importe qui, tu vois, d'aller passer une semaine gratuite dans le Four Seasons Hotel, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui refuseraient, tu vois.
Ouais. Qu'est-ce qui... En fait, quand tu parles de tes objectifs financiers, c'est pas si j'y arrive, c'est quand j'y arrive. Quand quelqu'un parle comme ça, de l'extérieur, les gens se disent, putain, mais comment elle peut être, avoir autant de foi en elle et en l'avenir? Ça vient d'où ça?
Je pense sur mes expériences passées, tu vois. Ça vient pas de. En fait, déjà, j'ai confiance. Bah, tu vois, je l'ai vu, quoi. Genre, la première année, j'ai fait 40 000 euros. Déjà, ça, je pensais que j'étais incapable de le faire. Déjà, quand j'ai fait même, tu vois, le mec qui est venu me voir avec 50 euros à me proposer en coaching, je me disais, mais c'est ouf, quoi. T'as quelqu'un sur Terre qui a envie de me donner de l'argent pour quelque chose que j'ai envie de lui proposer, tu vois. Moi, j'ai grandi dans une famille, il n'y a pas d'entrepreneur dans mon entourage. Donc, générer de l'argent par soi-même, c'est un concept qui est aliénique, hein, tu vois. Je ne sais pas si c'est un mot français, mais
Tu peux inventer.
d'une autre
On est
planète,
libre.
quoi. Bref.
Les profs de français, fuck you. C'est une blague!
Enfin, tu vois, voilà, générer de l'argent par soi-même, c'est vraiment quelque chose qui que la plupart de mon entourage comprend pas, conçoit pas, sait pas faire. Dans mes amis aussi que j'ai d'enfance, c'est pareil, tu vois. Donc pour moi, déjà, qu'on me propose 50 euros, c'était énorme. Donc là, déjà, il y avait quelque chose qui s'était débloqué dans ma tête. Et après, c'est juste une question de, tu vois, le montant, en fait. Mais en fait, c'est pas tellement le montant qui change, tu vois. Je pense que quand tu as débloqué l'idée de te dire que tu as quelqu'un qui est prêt à payer pour tes services, donc après que ce soit pour quelque chose que tu produis ou pour ce que tu sais ou pour qui tu es, comme disait Oussama Hamar, c'est pareil, tu vois, au final, c'est juste de voilà, générer de l'argent par toi-même et par tes propres moyens. Une fois que tu as débloqué ça c'est le premier niveau. Je pense qu'ensuite, tu comprends rapidement, tu vois, que tu peux vendre 50 euros à 100 000 personnes ou 500 000 euros à une seule personne, tu vois, et qu'en fait, ça demande autant d'efforts. La seule question, c'est voilà, c'est le temps, tu vois, c'est combien de temps est-ce que tu vas mettre à y arriver. Mais si pendant 80 ans de ta vie, t'essayes, tu vois, que t'es intelligent, enfin, ou normal, je veux dire, ton cerveau il fonctionne normalement, enfin, je veux dire que t'as pas un problème, tu vois, très compliqué, il y a un moment où tu finis par comprendre aussi. Les choses, elles se construisent, tu vois, tout met du temps, mais tout le monde finit par y arriver tant qu'il baisse pas les bras.
Je te propose de passer à une partie plus social media. Quel est l'ensemble de l'empire médiatique de Maud Alaves, de ce que je sais? LinkedIn, plus gros canal. Instagram, ta newsletter et feu YouTube. C'est ça ou j'en oublie un?
Je réfléchis. Ouais, je pense à ça, ouais.
Quel est le système en fait d'acquisition de levier de l'audience social media vers ton business? Comment ça fonctionne?
C'est LinkedIn principalement. En fait, il y a. Alors, LinkedIn, il a deux fonctions. Toi, si tu réfléchis les trucs en funnel, quoi, tu as ce qui fait de la découvrabilité, donc ce qui fait de la visibilité au sens très large, ça, c'est LinkedIn. Si j'avais TikTok le ferait aussi, mais on n'y est pas encore.
Le portefeuille moyen sur TikTok est 5 fois inférieur à LinkedIn, ou 4 fois, un truc comme ça.
Ouais. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant d'y aller,
Ah
tu
non, c'est sûr, bah j'y suis, moi je galère comme un ouf.
vois. Un jour, j'irai, mais pas encore. Donc ouais, LinkedIn en premier. LinkedIn m'amène des clients directs aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient ma tagline, ils voient ce que je fais, ils me contactent par message. Et ils me disent, voilà, est-ce qu'on peut bosser ensemble et on se prend et voir un call. Le chemin est un peu plus long. Donc, ça va être, ils me découvrent sur LinkedIn et ensuite ils vont sur les autres médias. Donc là, ils vont se faire aspirer par la newsletter, par les vidéos YouTube et par Instagram, qui sont des médias pour moi aujourd'hui qui créent un peu plus de fidélité de mon audience et sur lesquels je peux vraiment les nurture, comme ils disent en anglais. Et là, en fait, ceux-là, ce qui est marrant, c'est que. Ils ne me contactent pas tout de suite. Parfois, ils mettent quelques mois, parfois 6 mois, parfois 1 an. Et le jour où ils me contactent, en fait, là, ils me disent, voilà, moi, ça fait 6 mois, 1 an que je te suis. J'adore tout ce que tu fais. Ça fait longtemps que j'ai réfléchi, tu vois, j'ai vu tous tes contenus. Et en fait, bon, bah là, j'ai vraiment besoin de toi, tu vois.
Les gens t'appellent la sniper de LinkedIn parce que tu publies assez peu en termes de fréquence par rapport à des Nicolas Cole et Justin Welch qui publient, tu vois, je sais pas, 10 posts par semaine, enfin qui ont, tu vois, une moyenne de plus d'un post par jour. Ou toi, c'est un post, deux posts. En revanche, dès que tu postes un truc, ça fait plus de 100 000 vues quasiment à chaque fois, jusqu'à des millions. C'est quoi le secret, en fait, du snipe comme ça? Comment tu comment t'arrives à créer un momentum dans un post où là, les gens s'arrêtent et tout le monde se dit « Les gars, modèle à poster, le peuple, l'impératrice a posté, tout le monde arrête de faire ce qu'il fait. Le marché ferme, la bourse de New York s'écroule et tout le monde est sur le post de LinkedIn. C'est quoi ce bordel, tu vois ?» D'où ça sort, en fait?
Je pense le fait que je poste moins. Déjà, je bénéficie, tu vois, de l'élément rareté. Que forcément, quand tu publies tous les jours, bon, bah, voilà, t'es là tous les jours, tu vois. Donc, c'est une autre manière de faire. Moi, honnêtement, si je pouvais poster tous les jours, je le ferais, hein. Tu vois, c'est pas une question. J'ai fait une newsletter entière sur le sujet de est-ce qu'il vaut mieux faire de la qualité ou de la quantité. Et ça me tue de le dire parce que tu vois, c'est pas la manière dont j'opère. Mais c'est clair qu'il vaut mieux faire de la quantité. De toute façon, les réseaux sociaux sont un jeu de quantité. Après, je pense que voilà, on n'a pas tous la même personnalité, on n'a pas tous les mêmes capacités. Moi, je fais avec mes forces et mes faiblesses. Donc, ma faiblesse, c'est que je suis... Enfin, on va dire... C'est pas une faiblesse, mais dans ce cas-là, oui, c'est d'être introvertie. Et du coup, ça veut dire que j'aime pas me répéter, que je me mette beaucoup la pression, en fait, sur ce que je vais dire, que je vais réfléchir pendant trois plombes à savoir si c'est le bon mot, dans le bon sens, si vraiment la pensée est claire, etc., etc. Donc, avec cette manière de faire, je suis incapable, en fait, de façon, de poster tous les jours, tu vois. Il faudrait que je change totalement ma manière de rédiger, etc. Oui, de réfléchir. Ce qui ne va pas dans mon sens. Par contre, voilà, je suis devenue, du coup, à défaut de publier beaucoup, en fait, j'ai perfectionné mon art, quoi, tu vois. J'ai appris à me dire, bon, bah voilà, j'ai que one shot, deux shots par semaine. Donc là, je vais le rendre hyper efficace. Donc, je pense que c'est un peu intuitif, tu vois. C'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure, mais je pense que c'est un mélange de... bien comprendre déjà quels sont les sujets qui vont intéresser. Comment créer un momentum? Donc comment attirer l'attention tout d'un coup? Faire que, tu vois, c'est nouveau. Et donc ça passe par beaucoup d'observations, en fait, surtout. Et ça, c'est l'avantage des introvertis, tu vois. C'est que j'observe beaucoup ce qui se passe, ce qui se dit, et j'arrive à deviner, du coup, à sentir... si cette idée que je vais explorer, elle est, à quel point elle est innovante, à quel point elle est nouvelle, et en même temps, à quel point elle est non dite, tu vois. C'est-à-dire qu'elle est, elle est non explorée encore sur le réseau. Mais tout le monde le pense, tu vois. Et ça, c'est le mieux, en fait. C'est le meilleur moyen de créer vraiment un gros momentum.
Tu peux prédire la viralité d'un contenu?
Alors, en général, oui. En général, les posts, je les crée, je les pense pour qu'ils fassent plus ou moins de visibilité, tu vois. Genre, il y a des posts, je sais très bien, qui vont faire 200 likes, 300 likes. Je miserai pas plus, tu vois, que 500 likes. Je me dis, voilà, c'est un post, c'est un petit beau-fou des familles, comme on dit.
Ce qui est énorme, déjà.
Ouais, ce qui est pas mal. Après, tu vois, j'ai fait tellement de qualité qu'en fait, j'ai une base de fans, on va dire, qui est présente quoi qu'il arrive, tu vois. En gros, moi, je sais que quoi que je poste, je fais au minimum 200 likes. Après, soit le post, il est intéressant, il va faire plus, soit il n'est pas intéressant, il s'arrête là, tu vois. Ça, c'est l'avantage dont je bénéficie d'avoir une audience de fans et puis de créer du contenu depuis longtemps. Mais après, sinon, pour les autres... Il y en a où je vais les penser, ouais, en me disant ceux-là, j'ai envie qu'ils fassent plus de 500, donc plus de 1000 likes. Donc je vais les penser comme des gros tickets. Et après, je sais pas toujours, tu vois, à quel point ils vont partir, quoi. Je sais qu'il va faire plus de 1000 likes, mais entre 1000 et 10 000 ou 20 000, tu vois, ça, j'en sais rien. Et puis après, il y a des surprises. Genre, par exemple, le post que j'ai fait hier, tu vois, lui, je pensais que c'était un truc à 250, et puis là, il est déjà parti presque à 2000.
C'est quoi le poste dire ?
C'était un poste sur mes observations sur la Corée du Sud. Pour moi, c'était un sujet hyper spécifique.
Les gens aiment bien voyager, hein.
Et en fait, c'est là, effectivement, tu vois, mon erreur de jugement, c'est que j'avais oublié que, ouais, que le voyage, en fait, c'était un sujet hyper large. Tu vois, ça parle à tout le monde peut le comprendre. Dans ma tête, c'était spécifique, mais en fait, non.
Tu t'es spécifié sur les réseaux sociaux, sur un truc qu'on voyait peu sur LinkedIn, mais beaucoup sur Instagram, c'est la qualité de tes prises d'images. Mm. À tel point que je pense que tu as lancé une trend,
ouais.
Qui est que les gens mettent des images d'eux. Ce qui était quelque chose d'assez répulsif sur LinkedIn avant, parce que LinkedIn, c'était aussi le réseau sur lequel les gens voulaient venir pour surtout fuir Instagram. Tu vois. Instagram qui est considéré par les gens de LinkedIn comme un réseau superficiel. Contrairement à LinkedIn, on se disait « ouais, c'est le business et tout ». Mais tu as réussi à quand même mettre des belles images, bien cadrées, avec des beaux visuels qui font que c'est des images qui sont quasiment toutes de qualité professionnelle. Alors, il y a beaucoup d'améliorations dans les smartphones. Pourquoi tu mets des images, en fait, et pourquoi tu penses que ces images augmentent le momentum de tes posts ?
Ouais. En fait, c'est marrant parce qu'effectivement, j'ai commencé à faire ça il y a un an et demi, je dirais. Je l'ai fait assez rapidement et c'est un truc à l'époque, personne ne faisait ça quoi, sur LinkedIn. Et je pense qu'au début, je me suis dit... je pense qu'une des premières images que j'ai mises, c'est une image de moi qui bossais dans mon canapé avec les chaussettes. Là.
Ouais.
Je me suis dit, ça, de mettre ça sur LinkedIn quand même, c'est marrant, quoi, tu vois. C'était hyper disruptif, quoi. Genre, personne faisait ça. Enfin, LinkedIn, c'était le réseau social à l'époque de, tu vois, des salariés qui mettent des articles hyper corpo, qui vont dire c'est très intéressant. Merci Jean-Pierre, tu vois. Puis d'un coup, t'as une meuf qui balance un poste avec une photo d'elle qui bosse dans un canapé en chaussettes, tu vois. Ça, c'était du jamais vu. Donc en fait, je l'ai fait un peu aussi, je pense, pour voir, tu vois, ce qui allait se passer et pour provoquer, tu vois. Ça me faisait rire, en fait, de me dire... C'est moi, j'avais aucun enjeu, tu vois, j'avais pas de boss. Donc en fait, si... Tu vois, si pas moi qui l'aurais fait. Tu vois, j'avais pas d'employé non plus. En fait, t'as que les freelances, solopreneurs qui peuvent se permettre de faire un truc aussi, aussi débile, tu vois. Et puis en fait, je me suis rendu compte avec cette photo-là, donc cette première photo-là, qu'effectivement, ça avait créé beaucoup plus de visibilité. Puis les gens, ça les a interloqués, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont vu l'image, ils se sont dit « Waouh, qu'est-ce que ceci fait sur LinkedIn ?» Et là, à ce moment-là, j'ai capté. Je me suis dit « Ah ouais, en fait... bah, tu vois, c'est vrai que ce qui marche sur les autres réseaux, donc sur Instagram, sur YouTube, finalement, ça n'a pas de raison. Y a pas de raison que ça ne marche pas sur LinkedIn. Donc, j'ai continué à tester. Tu vois, j'ai mis des photos comme ça, etc. Et en fait, comme j'étais la seule à le faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que ça marche parce qu'il n'y a pas encore trop de gens qui le font. Dès l'instant que tout le monde le fera, ça sera plus si spécial que ça. Et du coup, ça aura moins d'impact, tu vois. Donc en fait, finalement, j'ai juste eu de la chance d'être une des premières à avoir eu l'idée de le faire, tu vois. Je pense que je serais arrivée un an plus tard, ça aurait eu moins d'intérêt. Et puis aujourd'hui, je jouis du first mover, tu vois, first mover advantage, quoi. Et puis aussi du fait qu'effectivement, ça c'est... Bah, encore une fois, je capitalise sur mes forces, tu vois, mais il ne faut pas oublier que j'ai fait 4 ans de mannequinat. Du coup, les photos... Enfin, tu vois, vous avez affaire à une professionnelle, quoi, je veux dire.
Hey, c'est le même de Kaamelott. Oui. Je vois que j'ai affaire à un professionnel.
Bah ouais, mais là, c'est vrai, tu vois. J'ai fait ça pendant 4 ans, donc je sais très bien, tu vois, comment poser, comment cadrer une photo, qu'est-ce qui rend une photo jolie, etc. Et ça, pour moi, c'est, c'est un métier, tu vois, mais c'est... voilà, et ça, c'est mon avantage. Et du coup, ça serait vraiment stupide de ma part, en fait, de ne pas jouer dessus, quoi.
Parce que c'est vrai que les gens se sont dit la photo ça marche bien, mode à la baisse, elle met des photos, ça part viral à chaque fois. Donc il y en a qui ont essayé,
ouais.
Ils ont fait les cascadeurs et en fait tu dis Ah ouais, mais là, ça rend pas de la même façon, là. Tu vois? Genre, les gens, en fait, c'est pas une question de photo, c'est que quand on lit une de tes newsletters sur l'art de l'image, et parfois, je te lis et je me dis, mais en fait, on croit que c'est plus facile que ce que c'est. Parce que putain, mais qu'est-ce que ça calcule? Moi, quand tu me fumes, c'est quand tu me parlais de l'art des couleurs. Non, mais là, il y a du orange avec du violet, les lignes. Enfin, c'est de mauvaise perspective, Thibaut. T'as une ligne qui est verticale et t'as une ligne qui est en diagonale. Ça ne peut pas fonctionner. Et en fait, je me dis, ok, elle est quand même. En fait, elle. C'est comme ouais, les gens qu'on dit, ouais, lui, il a réussi, mais c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Non, en fait, t'as des trucs en backstage sur lesquels toi, tu réfléchis. Peut-être que les gens ne le voient pas ou le voient inconsciemment. Mais c'est putain de travailler, quoi. C'est quoi le secret pour une bonne image? Parce que. Aux auditeurs, je vais quand même vous dire, Maud, elle a quand même fait une newsletter sur l'art de l'image et elle a dit ceci est bien. Elle a mis des exemples, elle a dit ceci n'est pas bien. Et elle a pris une image de moi. Elle a dit bah là, vous voyez bien qu'il y a des trucs, il y a les cheveux en bataille, il y a des trucs, il n'y a pas les bonnes perspectives, il y a un cochon derrière, il y a une nonne qui se bat. Elle a dit non, faites pas ça. Donc elle m'a pris en exemple sur newsletter sur ne faites pas ça, les amis, tu vois. Donc c'est quoi, ouais. C'est quoi le putain de secret d'amener une bonne image de soi en fait sur le réseau? Alors, avec une idée, parce que toi tu mets pas un truc de Instagram et tu mets pas Sunday Mood, c'est genre c'est travaillé, il y a une idée, donc l'image au service de l'idée, quoi. C'est quoi le secret en fait?
Une photo, tu veux dire, du coup?
Bah, comment tu fais une putain de bonne photo de toi en fait sur un réseau professionnel?
Ouais. En fait, c'est la même question que de demander comment tu fais un bon post ou comment tu fais un bon texte. Tu sais, t'as des bouquins entiers là-dessus, quoi. Donc, en fait, je pourrais jamais donner une réponse aussi complète que c'est nécessaire, là, en 2 secondes. Donc, globalement, je dirais que déjà, il faut se renseigner, il faut regarder ce qui se fait, quoi. Mais après, pour moi, bon, bah voilà, j'ai fait une newsletter et un article sur le sujet de, effectivement, l'art de la photographie, qui donne un peu déjà les bases. Et pour moi, déjà, c'est donner de l'espace, tu vois, aérer l'image, respecter effectivement les perspectives. Donc, il faut qu'elle soit bien prise, qu'elle soit droite, tu vois, qu'elle soit bien cadrée. Ça, c'est un truc déjà qui va amener de la clarté, tu vois, comme on dit, amener de la clarté dans votre poste. Bon, bah, c'est la même chose sur l'image, il faut de la clarté, tu vois. Il ne faut pas qu'il y ait plein d'éléments qui soient partout, qui brouillent le message, tu vois. Il faut que ce soit clair et limpide de qu'est-ce qu'on a envie de montrer et qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant. Et après, du coup, c'est ça la réflexion qu'il faut avoir, c'est en fait, qu'est-ce que j'ai envie de montrer avec cette image, tu vois, elle est là pourquoi au final. Moi, on a l'impression, tu sais, parfois que, je sais pas, je fais toujours les mêmes expressions, toujours les mêmes poses, mais c'est aussi parce qu'en fait, l'expression que je vais avoir va coller avec le texte, c'est ce que j'ai envie de dire, tu vois. Je vais pas dire un truc triste et puis me mettre tout sourire, ou inversement, raconter quelque chose de super joyeux et puis avoir une gueule, tu vois, défaitiste, quoi. Donc en gros, pour moi, l'image, elle doit illustrer le propos, tu vois, ou elle doit surtout véhiculer une émotion, tu vois. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de mettre un humain sur la photo. C'est parce qu'il doit se passer quelque chose. Pour qu'on comprenne. Ouais. Pour que juste l'image, déjà, on se dise « Ah, qu'est-ce qui se passe là ?»
Ouais. Écoutez, pour moi, c'est peine perdue. Alors, en fait, j'ai appris un truc de Manon et Maud, c'est qu'apparemment, il fallait mettre la main sous le visage. Genre, c'était un hack. mais j'y arrive pas, ça rend pas la même chose que quand c'est Maud qui le fait.
Non, mais t'as le volume, tu vois, donc t'as autre chose.
Ouais, j'ai d'autres... Ouais. Je vais pas ouvrir un compte OnlyFans, mais j'ai d'autres, j'ai d'autres avantages compétitifs. Maud, t'as quand même explosé sur LinkedIn. T'as une croissance, en U, quoi, exponentielle. T'as quasiment 50 000 abonnés là, ce qui te fout dans les, je sais pas combien, mais c'est incroyable quand t'es pas CEO, quand t'es pas une célébrité sur LinkedIn d'avoir 50 000 abonnés. Bravo.
Merci.
Je pense que t'as quand même des enseignements là-dessus. Si demain tu dois recommencer, on t'enlève ton identité, personne ne te connaît et tu dois recommencer de zéro sur LinkedIn, c'est quoi la strat d'ultra growth sur LinkedIn pour péter le game rapidement? En termes d'abonnés, hein. Oublions les leads pour une fois, mais genre tu veux grossir vite sur LinkedIn, comment tu fais?
Ouais. Ben, tu vois, en fait, je sais pas s'il y a une seule stratégie qui marche pour tout le monde. Je pense que déjà, la première chose à faire, c'est de se dire, ok, dans quoi je suis fort, tu vois. Moi, il se trouve que c'est les photos. J'ai mis du temps à découvrir que c'était ça. J'ai mis du temps aussi à le repousser parce que je voulais pas, tu vois, justement, capitaliser sur le fait que, dit simplement, tu vois, certains pourraient dire, bah, elle est jolie. Elle a réussi parce qu'elle est jolie. C'est quelque chose que je voulais absolument pas être enfermée dans cette image-là. Et donc, pendant longtemps, tu vois, j'ai repoussé le fait que voilà, je savais faire des jolies photos, que mes trucs étaient bien mis en scène, etc. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, effectivement, bon, bah, ça serait quand même. C'est un peu stupide, tu vois. Là, t'es un peu assise sur une mine d'or et puis tu l'exploites pas, quoi. Donc, première chose, je pense que c'est important de connaître ses forces, tu vois. Est-ce que les gens sont bons pour faire un carrousel, pour faire des visuels, ou meilleurs pour faire du texte? Est-ce que t'es bon pour regarder chaque mot, chaque détail, tu vois? Ou est-ce que t'es bon pour, à l'inverse, faire comme toi, faire du volume? Est-ce que t'es drôle? Est-ce que, à l'inverse, t'es plutôt analytique, tu vois? Et à partir de là, faut choisir. Donc au début, je testerai. Bon, moi, je connais mes forces, donc j'irai direct, tu vois. je réfléchirai plus, tu vois. Je pense que j'ai perdu, d'une certaine manière, 6 mois. À essayer d'explorer un peu différents trucs pour savoir qu'est-ce qui marche pour moi, tu vois, mais qui est nécessaire. Et une fois que tu as compris qu'est-ce qui marche chez toi, là, il faut bombarder, quoi. Il faut y aller à fond, faut plus hésiter, il faut être direct, tu vois.
Faire du volume.
Au maximum que tu peux.
C'est quoi le bon volume?
Ben,
tu veux vraiment casser le game, fumer le game?
Bah, c'est le maximum possible, en fait, il n'y a pas de limite, quoi. De toute façon, je pense que tu pourrais poster 10 posts par jour, tu vois, que ça ne serait jamais assez, en fait.
Ah ouais?
Bah ouais, plus tu vas vite, plus tu vas fort, plus tu communiques, plus tu prends de la place, tu vois, c'est exponentiel, quoi, c'est mathématique. Il y a Simon Tonn qui a fait une étude là-dessus, en 1997, qui était hyper intéressante, justement, où il a étudié les travaux de beaucoup d'artistes, scientifiques, architectes, musiciens, etc. Tu as beaucoup de créateurs, en fait, dans tous les sens, entrepreneurs et compagnie. Et il a noté, en fait, le nombre d'œuvres qu'ils ont publiées à l'année versus le nombre d'œuvres qui ont été considérées comme marquantes. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation totalement linéaire et stable entre le nombre d'œuvres que tu crées et le nombre d'œuvres qui ont été considérées comme marquantes. En gros, plus tu crées, plus tu as d'œuvres marquantes qui sont faites. C'est aussi simple que ça. Il y a personne qui crée peu et qui a beaucoup d'œuvres marquantes de considérer. Donc en fait, au final, tous ceux qui ont beaucoup d'œuvres ou qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont essayé pendant suffisamment longtemps et suffisamment de fois. Tous ceux qui n'ont pas réussi, ce sont ceux qui juste n'ont pas fait assez de volume, quoi. C'est la quantité qui amène à la qualité et pas l'inverse. Alors évidemment, ça veut dire que ça veut pas dire qu'il faut se mettre à publier de la merde. En tout cas, la science montre ça, quoi. Donc à partir de là, oui, je pense qu'on pourrait publier 10 posts par jour. Il y en a une partie qui seront pas ouf, mais au moins, en fait, on apprend, on comprend vite, on s'améliore. Et surtout, de toute façon, on est visible. On est visible, on rentre dans la tête. Les gens, ils regardent pas tant que ça, en fait, les likes, quoi. Ils voient surtout qui est-ce qu'ils voient le plus, et tous les jours, plutôt que quelqu'un qui voit une fois mais qui fait 1000 likes. De toute façon, ils l'ont peut-être pas vu, tu vois, qu'il a fait 1000 likes, la personne. Il a peut-être vu le post au début, il était à 100 likes, il s'est pas rendu compte. Les gens se rendent pas compte aussi, ils savent pas, tu vois, qu'est-ce qui est bien ou pas sur LinkedIn. Ils en savent rien. Donc en fait, dès l'instant qu'ils voient ton prénom, ça suffit. Du coup, c'est pour ça que c'est plus intéressant de façon de créer plus. Donc après, bon, objectivement, tout le monde peut pas créer 10 posts par jour, tu vois. Donc c'est là où moi, je suis arrivée avec cette règle du CPM. Que j'appelle création par mois. En gros, c'est ce qu'il faut observer, c'est quoi la moyenne de création par mois sur le réseau. Donc là, sur LinkedIn, moi, je pense qu'il est à peu près de 1,5, 2, tu vois.
Par semaine.
Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'en moyenne, à mon avis, les gens qui publient sur LinkedIn, ils font entre 1 et 2 posts par semaine. Tu vois. En fait, il y a quoi? Il y a 10 personnes qui font, en France, qui font autant de posts que toi, tu vois. Mais sinon, la plupart, ils galèrent à faire un post, il y en a même un. Enfin, la plupart, ils font un post tous les mois, tu vois. Donc, la moyenne, c'est ça. Du coup, ça veut dire que, en fait, déjà, le minimum légal, c'est de rester à cette moyenne-là. Il ne faut pas tomber en dessous. Donc déjà, si vous êtes à 2 postes par semaine, vous êtes dans le CPM. Donc comme moi, je suis à 2 postes par semaine, je suis dans le CPM moyen. Tout ce qui va au-dessus, c'est augmenter la fréquence, et du coup, c'est aller à son avantage, quoi.
Ok. Et ils parlent de quoi, les gens ? Si tu devais recommencer, tu parlerais de quoi ?
Ouais, je parlerais
de... Attends, mais le nombre de gens qui disent « mais je sais pas quoi dire ».
Ouais. Bah moi, je parle un peu de tout, en fait. Tu sais, je parle de ma vie d'entrepreneur, je parle de marketing, je parle de branding, donc je parle de trucs qui servent ma choucroute, forcément. Tous les posts servent ma choucroute, servent mon message. Mais après, ça peut partir de n'importe où, tu vois. Ça peut partir de la Corée, comme ça peut partir de la musique. Ce qui est important, c'est de raccrocher les wagons.
T'as jamais fait de pause sur la musique ?
Pas encore.
Not yet.
Je pourrais. On sait jamais, tu vois. Je pourrais très bien parler d'un musicien, un de ces quatre, et puis faire un post là-dessus. J'ai fait des posts qui parlaient de comment organiser sa routine. J'ai fait des posts qui parlaient de l'émotion de la jalousie. Enfin, tu vois, ça n'a... En fait, quand on y pense, on peut se dire que ça n'a ni queue ni tête, tu vois. Je parle de tout et rien. En fait, ce n'est pas tellement plus important. Ce qui est important, c'est de parler de trucs qui vont intéresser les gens, qui sont cohérents avec l'image qu'on a envie de donner de soi-même et qui vont donner suffisamment de visibilité pour que les gens ils atterrissent sur notre profil LinkedIn. Et c'est là qu'après, on fait de la conversion. En follower ou en lead, en fait. Après, voilà, tant que ce qu'on dit, c'est intelligent, je pense qu'on peut parler en vrai d'à peu près tout, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas à se brider là-dessus.
Je te propose de passer à une autre partie, qui est une partie avec des questions plus personnelles, qui est ma favorite, parce que j'adore dans les podcasts les questions un peu cheloues. Enfin, celle-là, elle n'est pas chelou, mais tu travailles combien d'heures par semaine ?
Je ne sais pas trop. J'arrive pas à... En fait, ça dépend des semaines. Je sais qu'au minimum, en général, je vais travailler au moins 1 heure par jour, tous les jours.
Feignante.
C'est-à-dire que les samedis aussi, les ouais. Dimanches aussi, les jours fériés aussi. En fait, je ne sais pas toujours quel jour on est d'ailleurs, tu vois. Parce que pour moi, ça n'a plus d'importance. Même si je suis en vacances, tu vois, là, j'étais 2 semaines en Corée du Sud. Je travaille quand même 1 heure par jour, tu vois. J'ai quand même fait mes coachings, je n'ai pas arrêté ça pour autant. Donc au moins ça, 1 heure, 2 heures parfois. Et après, je vais rarement au-dessus de 5 heures. Parfois ça m'arrive d'aller à beaucoup plus. Et après il y a des choses aussi où en fait c'est difficile de définir, tu vois, c'est quoi le travail
complètement,
tu vois, est-ce que quand je traîne sur LinkedIn c'est du travail? D'un côté oui, parce que c'est nécessaire, c'est de la veille, c'est ce que je fais, j'ai besoin de ça pour savoir quoi publier derrière. Est-ce que quand je passe 1 heure sur WhatsApp avec toi, c'est du travail, tu vois? Je sais pas, on pourrait dire au final que oui, parce qu'on s'échange des infos, tu vois, on réfléchit à nos business, etc. On fait du brainstorm, tu vois. Donc il y a plein de choses comme ça. Parfois je me dis, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit du travail, tu vois, et du coup j'arrive pas à mesurer spécialement, quoi.
Je pense que ça c'est un putain de privilège de quand t'es entrepreneur. Tu sais plus trop en fait. C'est ce que Naval Ravikant appelle « what feels like play to you and work to others ». Et quand tu arrives à éliminer complètement ce qui est « work to you » et que tu sais plus trop et que ça te fait plaisir, il y a des trucs qui te font chier que tu fais encore ou pas, que tu aimerais éliminer?
Bah, ce qui me faisait chier surtout, c'était de répondre aux messages. Mais là, je l'ai éliminé depuis pas longtemps. J'ai employé ma première freelance à qui je délègue, du coup, elle répond au message à ma place.
Oh putain. Ce passage sera supprimé du podcast.
Enfin, la plupart des messages. Elle répond à la plupart des messages à ma place et puis elle m'envoie ceux que je dois, auxquels je dois vraiment répondre. Ça me prenait beaucoup, beaucoup d'énergie, mentale surtout, en fait. Parce que là, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais tu sais, je reçois, je sais pas, 10-20 messages par jour, tu vois. Alors, on peut se dire que ce n'est pas beaucoup, mais en fait, c'est 10-20 personnes qui veulent des trucs de moi tous les jours, et x7, tu vois, tout le temps, en fait. Donc ça fait 140 personnes qui me contactent par semaine et qui veulent des trucs. Ça peut être n'importe quoi, tu vois. Ils veulent des conseils, ils veulent du coaching, ils veulent que je partage leur contenu, ils veulent que je like leurs trucs, ils veulent, je sais pas, parfois je sais pas ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui est le plus coûteux. C'est quand je sais pas ce qu'ils veulent, je sais pas pourquoi ils me contactent, tu vois. Et moi, de lire tout ça me prend de l'énergie, et ça me coûte beaucoup, en fait. Aussi, c'est très dur pour moi de dire non. Donc du coup, tout ça, je préfère, tu vois, le déléguer à quelqu'un, c'est plus simple. Après, aujourd'hui, du coup, j'ai plus trop... Bah, la compta, je vais la passer aussi, là, à quelqu'un d'autre. Et encore, ça me faisait pas trop trop chier, ça va, tu vois. Donc je sais pas, là dans l'immédiat, j'ai pas tellement de trucs, tu vois, auxquels je pense. Vraiment, le truc le plus coûteux pour moi, c'est de répondre à tous les messages. Une fois que j'aurai enlevé ça.
La douleur est sous-estimée parce
Ouais.
que les gens sont naturellement ou essayent d'être naturellement bons et gentils et ça leur coûte tellement cher de ne pas répondre parce qu'ils ont l'impression que les gens vont se dire ah il m'a pas répondu c'est un connard tu vois. Quand moi quand j'écrivais beaucoup aux autres quand je savais pas trop quoi faire de ma vie c'est souvent ça le truc c'est que les gens quand ils te contactent ils pensent que tu vas leur apporter une solution divine, alors qu'en fait, souvent tu peux rien pour eux. Et en fait, la meilleure chose qu'ils pourraient faire, c'est régler leurs problèmes eux-mêmes. Mais ça les rassure, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de ma start-up? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ci? Et en fait, souvent, on n'en sait rien, quoi. Mais les gens essaient de répondre au maximum, et il y en a, ça les pèse fort, quoi, tu vois. C'est difficile, hein, d'ailleurs. Tous les meilleurs créateurs de contenu, il y a un moment où ils arrêtent de répondre. Systématiquement, même Derek Sivers, qui était connu pour répondre à tous les messages, il a arrêté un moment parce que Tim Ferriss, il a fait un article dessus parce qu'il y a des mecs qui sont, ils ont dit ouais, réponds-moi sinon je vais me suicider, enfin des trucs de ouf, tu vois. En fait, il disait dans l'article, c'est que bah en fait, si tu regardes, tu prends un échantillon de ta classe, la probabilité qu'il y ait quelqu'un qui soit fou furieux est faible. Tu prends l'échantillon de ta ville, bah là la probabilité est très forte. Et si tu prends l'échelle du pays, bah alors là t'es entouré de zombies. Et il y en a qui nous écrivent des messages en fait, et ça les gens se rendent pas compte que c'est parfois t'as aussi des gens. Alors tu te fais pas insulter, mais faut pas oublier aussi que les gens écrivent des messages sympas parfois, mais en fait parfois les gens t'écrivent des messages et tu sais pas vraiment s'ils te veulent du bien, parfois ils te veulent du mal aussi. Et ils oublient que en fait quand il y a déjà un premier filtre sur un message, c'est déjà cette personne me veut-elle du bien ou est-elle hostile? Et ça, et quand le pire c'est quand les gens ils t'envoient des messages ambigus. Tu dis, oula, lui, je sais pas trop le placer. Moi, je réponds plus aussi. Genre, stop.
Mais c'est vrai que c'est difficile en fait de pas enfin, de pas répondre quoi. Parce que moi au début, enfin tu sais, j'ai toujours été une bonne élève. Je réponds, on me pose une question, je réponds, tu vois. C'est très difficile pour moi de de rien dire ou de dire non ou de pas aider quand quelqu'un vient me demander. Puis en plus, ce qui est très difficile aussi quand tu es créateur de contenu, c'est que tu as une relation avec ton audience ou d'un côté tu as besoin d'eux, tu vois. Donc je suis hyper j'ai beaucoup de gratitude dans le fait qu'il y a autant de gens qui me suivent, etc. Donc ça me donne le sentiment de d'être responsable aussi de la situation dans laquelle je suis, quoi. Et en même temps, effectivement, bah c'est pas scalable, quoi. Sur le long terme, c'est pas possible. Il y a un moment où tu te dis, l'audience, elle est exponentielle. Là, je suis dans cette situation aujourd'hui, mais a priori, l'année prochaine, ça sera pire. Et l'année après, ça sera encore pire, etc. Et ça va être de pire en pire. Et de toute façon, il y a un moment où, bah voilà, j'ai que 24 heures dans ma journée. Et je peux pas répondre à tout le monde physiquement, c'est impossible quoi. Donc il faut accepter. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Et je pense que c'est ce psychologiquement c'est ce struggle quoi que j'ai intérieurement entre j'ai envie d'être une bonne élève et de répondre positivement et puis bah, en fait l'incapacité de le faire qui me coûte beaucoup ouais.
C'est quoi la pire, le pire défaut de toi selon les autres?
Que je réfléchis trop.
C'est un bon défaut, ça.
Bah, ça
Peut-être pas en
dépend,
entrepreneuriat, par contre.
hein. C'est ça. C'est un truc qu'on me dit souvent. On me dit souvent que je me pose trop de questions, que je réfléchis trop. Et du coup, je me fais des plans, des montagnes, toute seule, tu vois. En tout cas, c'est le truc qu'on m'a dit souvent. Tu te prends trop la tête, quoi, tu vois.
Le pire défaut selon toi?
Ah, c'est une bonne question, ça. Selon moi, Bah, du coup, j'ai l'impression que c'est celui-là, tu vois.
Ouais.
Et en même temps, ce qui est marrant, c'est que pour moi, c'est aussi ma meilleure qualité. Je pense que c'est parce que je me pose trop de questions qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, je suis capable de créer des contenus, justement, où je vais sniper, quoi. Tu vois, c'est parce que je vais au bout de ma pensée et que j'arrive à créer des contenus, du coup, qui sont hyper uniques. Pour moi, c'est ça qui fait qu'ils fonctionnent, principalement.
Et du coup, à l'inverse, la meilleure qualité, selon toi ?
Bah, c'est ça, hein, ce que je veux dire, du coup, de se poser trop de questions. Ouais.
Ah oui, donc en fait, c'est... et la meilleure qualité selon les autres ? Ah là, tu peux pas me le dire. Hein.
Ah, la qualité, la meilleure qualité selon les autres.
Bah, selon toi, c'est trop réfléchir, tu m'as dit, c'est ça ?
Ouais, selon moi, c'est...
Ok, donc ton pire défaut, ta meilleure qualité en même temps, et donc la meilleure qualité selon les autres ?
Bah, meilleure qualité selon les autres, je pense que ça serait peut-être étonnamment. En fait, ça dépend, c'est qui les autres, tu vois, c'est mes amis.
Ouais, disons, ouais.
Ouais. Alors, si on va dire mes amis, je pense que ça serait peut-être d'être empathique. De les écouter, de les comprendre, de pas les juger toujours. Et de réfléchir beaucoup avec eux, quoi. Donc on en revient à ce truc de réflexion, tu vois, mais... Quand j'ai un pote qui a un problème, tu vois, je le laisse pas comme ça, quoi. En fait.
Ouais.
Je peux passer 5 heures à écouter son problème, à essayer de le résoudre avec lui.
Mmh. Bah écoute, maintenant que je viens de poser des questions à la con de CV, je vous rappellerai, Maud, nous allons étudier votre candidature. ok. Si tu devais... Si on te disait, tu dois manger un seul plat... pendant un an, et tu pourrais manger d'autres. Tu manges quoi ?
Moi, je mangerais le toast à l'avocat. C'est déjà quasiment ce que je fais, en fait.
Ok, bon, bah, écoute...
Tous les midis, je mange un toast à l'avocat. Je sais pas, c'est...
Et le soir ?
Le soir ? Le soir, je mange les pâtes à la palourde, souvent.
Les pâtes à la palourde ?
En ce moment, c'est ça.
C'est toi qui te les cuisines ?
Mais ça va pas.
Tu les prends où ?
Ah, tu vas rigoler. C'est horrible.
À McDo ?
Non, au restaurant qui est juste en bas de chez moi.
Bah oui, ce serait quand même dommage.
D'aller un peu plus loin, quoi.
Attends, mais ça veut dire que le midi et le soir, tu manges toujours la même chose ?
Quasiment, ouais.
Ok, bah écoute, si vous voulez le secret pour percer sur LinkedIn, c'est pâte à la palourde et toast à l'avocat.
Ouais, parce qu'en fait... Ouais, c'est marrant, tu vois, mais je faisais pas ça avant, de manger tous les jours la même chose. Et je fais ça surtout depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et en fait, j'ai trouvé une espèce d'explication derrière. Je pense que c'est parce que l'entrepreneuriat, c'est tellement varié, tu vois, tellement incertain. T'as des journées, tu vois, où t'enchaînes une déception. Et puis une heure après, t'as un truc qui t'arrive qui est trop bien. Deux minutes après, ton poste, il va pas du tout. Une heure après, tu vois, t'as un client qui... Tu viens de signer un super gros contrat. Enfin, en gros, tu vois, dans une journée, c'est hyper imprévisible. Il y a jamais rien qui se passe comme t'avais prévu. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez difficile, en fait, de naviguer dans l'incertain et le non-contrôle des choses. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que j'aurai mon toast à l'avocat, tu vois, à midi, et qui sera bon. Et ça, tu vois, en fait, ça me procure un pilier de stabilité dans ma journée où, tu vois, il est midi, c'est le plein milieu, bon, parfois le début de la journée pour moi, mais bref, j'ai coupé, tu vois, je suis là, je suis bien, je dis putain, c'est bon, j'ai mon toast à l'avocat, tout va bien, tu vois, enfin, ça prend à peine dans, finalement, dans l'essentiel de il peut se passer n'importe quoi, de toute façon, ça c'est là, tu vois.
Bah, y a une phrase de Taleb comme ça qui s'appelle « Il y a trois choses sûres dans la vie. La mort, les taxes et le toast à l'avocat le midi. » Il a pas, je me rappelle plus la troisième truc, mais ça m'a fait, je l'ai un peu twisté là, la phrase. ça ressemble à quoi la morning routine de Maud Alaves?
C'est une bonne question parce que en fait j'ai pas alors il y a un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est les histoires de chronotypes. Je sais pas si t'as déjà entendu ça, le chronotype du sommeil, là. Donc rapidement, pour ceux qui connaissent pas, il y a quatre chronotypes qui sont liés à nos cycles circadiens internes, en fait. Et tout le monde est un peu différent. Donc en gros, tu as les ours qui sont le mieux câblés pour la société, qui se lèvent à peu près tôt, qui se couchent tôt, mais qui se lèvent aux heures normales quoi, pour travailler, pour faire du 9h-19h, tu vois. Après, tu as les lions, où eux, c'est les lèvent très tôt, donc c'est les meilleurs clients du Miracle Morning. Mais ils se couchent très tôt aussi, très sportifs, tu vois, ce genre très, très énergique et tout. Tu as les loups. Là, c'est les couche-tard, lève-tard. Donc, eux, font les soirées, tout ça. Nanana. Et après, t'as les dauphins, comme moi, en fait, qui n'ont aucun cycle, quoi. C'est-à-dire que en gros, moi, je peux très bien me coucher un jour à 5h du mat et me lever le lendemain à 10h, tu vois. Et en même temps, je peux très bien enchaîner. Là, tu vois, j'ai fait 2 semaines avec ma sœur. Elle se couche à 22h. Du coup, je me couche comme elle à 22h. Et après, je me lève à 8h du matin, tu vois, ou avant même, à 7h, quoi. Donc,
c'est un crime, ça. Normalement, non. De se lever tôt. À cette heure-là, non, à 7h.
Mais j'avais jamais vu cette heure-là. Ça faisait.
C'est un délit, normalement. C'est considéré comme un délit.
Ça faisait des mois que j'avais pas vu le 7h du matin, tu sais. À part quand je vais me coucher, justement. Mais bref, en gros, le dauphin, le principe, c'est que voilà, t'as pas de rythme, tu vois. Donc, par exemple, le jet lag aussi, je le vis pas trop. Parce que. Je peux facilement, en fait, changer de rythme, tu vois, d'un jour à l'autre. Bref, donc tout ça pour dire que j'ai pas le truc du « je me lève à 8h du matin », tu vois. Mmh. Non. En fait, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de faire au moins, au minimum, 7 heures de sommeil. Quoi qu'il arrive, si je me couche à 3h, je vais me lever à 10h, tu vois. Il n'y a aucun moyen de me faire mettre un réveil avant cette heure-là, tu vois. Si je me couche à 22h, bah, du coup, je vais me lever à 6h, 7h, je vais plutôt faire 9h de sommeil, tu vois. Mais je calme mon heure de réveil en fonction de l'heure à laquelle je me couche, tu vois. Donc je me réveille, ça peut être du 7h du matin, comme ça peut être du midi, 13h, 14h, tu vois. Et là, donc je commence par une douche, mon jus d'orange, jus de fruits. Je suis incapable de boire de l'eau le matin, donc je bois toujours un verre de jus de fruits. Si j'ai pas mon verre de jus de fruits, je pète un câble, hein. Je suis d'une humeur, mais monstre, tu vois. Et après, ce que j'ai commencé à implémenter, en fait, surtout, c'est que je ne regarde pas les réseaux sociaux, avant ni ma messagerie, email, avant le plus tard possible. Donc en gros, c'est-à-dire que je vais essayer de ne pas la regarder, je vais essayer d'attendre d'être éveillée depuis au moins 4 heures avant de regarder les réseaux. Pour que j'ai eu suffisamment de temps dans ma journée pour faire d'autres choses, être créative, avoir un moment avec des amis, tu vois, des échanges, etc., pour qu'en fait, je sois suffisamment solide émotionnellement pour que le moment où je vais sur les réseaux, tu vois, finalement, ça m'impacte beaucoup moins. Parce que c'est pas la première information que je reçois dès le matin. Donc du coup, voilà, doucher, tout ça. Je mange pas le matin, en général. Par contre, je me fais un café. Je prends mon bullet journal. Je vais écrire qu'est-ce que je dois faire avec ma petite musique. Toujours la même, aussi.
En général. Arrange pas une équipe qui gagne. Hein.
Non, en ce moment c'est Coldplay. J'ai une playlist qui dure 45 minutes sur YouTube. Je me sème là tous les matins. Ça fait 6 mois. Peut-être qu'au bout de 6 mois, tu vois, je la changerai.
Et après, tu mettras ACDC.
Non, jamais. Non, je mets des trucs calmes. Je mets des trucs genre du piano, des trucs comme ça. Et après, je commence doucement la journée, donc par les tâches, en général les mini-tâches, les trucs que je peux faire assez facilement, tu vois, du genre, moi je vais noter, tu vois, si je dois ranger un truc, si je dois envoyer des factures, des bidules, des petites tâches toutes simples. Et après, je vais commencer en général mes coachings, et puis à faire des travails un peu plus créatifs de deep work.
J'ai donné des concepts et je vais te demander de noter de 0 à 10 ta satisfaction dessus. Okay. T'as pas le droit de dire 7. Ah, si je te dis la santé.
C'est marrant quand même comme question. Ouais. Ton taux de satisfaction. Ouais.
Non, mais tu notes de 1 à 0 à 10. T'as pas le droit de dire 7. Ouais. Santé. Okay.
Santé, ouais. Donc mon taux de satisfaction de la santé. À quel point je suis satisfaite de ma santé, ouais, aujourd'hui, c'est ça? Bah. C'est vrai que c'est relou, hein, ce fait de pas dire 7, tu vois. Je dirais 6.
6.
Peut-être un 8, tu vois. 6 ou 8.
C'est pas pareil.
C'est pas pareil, effectivement.
Qu'est-ce qui pourrait t'améliorer?
Non, 6, ouais, on va dire 6.
Qu'est-ce qui pourrait t'améliorer?
Bah, déjà, bon, je fais zéro sport, quasiment pas. Bon. Bah ouais, mais... Donc ça, en fait, sur le long terme, je sais qu'à un moment, ça va être compliqué. En gros, aujourd'hui, en fait, j'ai juste de la chance extrême d'avoir aucun problème de santé. Tu vois. Donc finalement, c'est pour ça que c'est pas un sujet qui me tracasse au quotidien. Donc je fais rien spécialement pour être en bonne santé, mais je fais rien non plus pour être en mauvaise santé. Tu vois, je bois quasiment pas d'alcool, je fume pas, enfin, j'ai pas de vice extrême, tu vois, à proprement parler. Je prends pas de drogue, tu vois, je suis pas, je sors peu, donc tu vois, j'ai rien qui me dégrade vraiment, en fait. Par contre, j'ai rien qui me booste de ouf non plus, tu vois. C'est vrai que le sommeil, bah, comme ça fluctue, tu vois, c'est pas ouf sur le long terme. Le fait que
tu voilà, fais tes heures.
Oui, je fais mes heures, mais je les fais pas tout le temps de la même manière. Donc ça, je sais que c'est pas bon.
Ouais, bah, par rapport à des gens qui tu sais, la moyenne, je crois, en France, c'est 6 heures, un truc comme ça. Les gens, ils dorment très peu. Hein.
Ouais.
Ça change tout. C'est le vrai. Sommeil, c'est hyper sous-estimé, en fait.
Ouais, c'est vrai. Je mange, bah, tu vois, je mange tout le jour, enfin tout le temps la même chose, donc c'est pas super bon, mais bon, après, je mange pas, c'est quand même assez équilibré, tu vois. Je fais pas des burgers, je fais pas des trucs trop gras, dégueulasses, donc ça va. Mais après, le fait de effectivement pas faire beaucoup de sport, j'ai des phases. Parfois, j'y vais à la danse quand même, j'essaie.
De toute façon, c'est pas all in or nothing. Juste bah, les escaliers chez toi, tu vois, c'est déjà bien de le faire ça. Et si tu les fais une fois par jour, t'habites au 14e étage du donjon. Donc,
C'est vrai.
Ok, si je te dis l'amour.
L'amour, bah là, j'ai pas de mec, ni de meuf d'ailleurs, mais bon, je suis seule. Donc, toute satisfaction, c'est une bonne question, ça, tu vois. Est-ce que je suis satisfaite d'être seule ou pas? Je sais pas encore trop. J'ai un peu ce truc, tu sais, je pense qu'il y a un peu cet inconscient collectif ou ce mythe, en fait, de la femme qui réussit qui finit seule. T'as l'impression que c'est un peu inévitable. Tu sais, tu t'imagines pas une multimillionnaire avec sa famille, ses enfants, tu vois, ça n'existe pas, en fait. La multimillionnaire, dans les films, elle est forcément au haut de sa tour, toute seule, avec son chat, quoi. Du coup, j'ai un peu l'impression, tu vois, que mon destin est scellé à ce sujet et que je vais finir comme ça. Et en même temps, parfois, j'essaie d'y croire encore. Donc, je dirais 5, tu vois. Parce que j'ai pas encore décidé de... Est-ce que je vais me complaire dans l'idée d'être seule, tu vois. Ou est-ce que... Ou pas, quoi. Ouais.
Je trouve un peu défaitiste. Il y a cette image, mais... Je la trouve un peu old school. En fait, je trouve que c'est une ouais. image que les gens attribuent qui est souvent un peu sexiste. Oui. C'est-à-dire, t'as 30 ans, t'as pas d'enfant, t'es pas marié, mais enfin, le but, normalement, t'as pensé que t'es ménopausé à un moment. Stop, tu vois. Déjà, rien que le fait... J'ai vu Justin Welch, qui a fait un post vachement intéressant avec sa femme. Enfin, il a dit « We don't want children by design. » C'est-à-dire que ils sont concertés, ils se sont dit on va pas faire de gamin, c'est un choix réfléchi, on sait ce que ça implique, on sait ce que ça n'implique pas, mais on le fait. Mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est des propos intolérables, tu vois. Tu fais ton business, t'as 30 ans, t'es nana, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, et elles pensent pas à se marier, et elles pensent pas, mais en fait, fuck you, quoi, tu vois, genre au final... Moi, mes darons, mon père, il a trouvé... Mon père, je crois qu'il s'est marié, il avait 44 ans, tu vois. Donc, il était déjà bien avancé dans la vie, t'es successful de ouf. Il y a le temps, quand même, tu vois, au final.
Ben oui, en même temps, tu vois, c'est vrai que t'as un peu tout dit. Effectivement, c'est des propos sexistes, quoi. Donc, c'est-à-dire que je pense que... quand t'es une femme, c'est quelque chose d'assez... d'assez inconscient, mais effectivement, tu vois, je sens la pression arrivé, quoi. Genre, ça y est, j'ai 30 ans. Mais de tout, mais tu sais, je reçois des pubs Facebook, en fait.
Horrible,
aujourd'hui,
ça.
C'est que ça, c'est que du mythique, c'est que du la grossesse, nanana. Enfin, tu sais, j'ai aucune pub Facebook en mode soyez entrepreneur, ouais. Tu vois. Putain. Moi, j'ai que des pubs Facebook sur les bébés, le mariage, genre sur Instagram je vois des photos de mariés, sur les films que je vois en fait, enfin tu sais, tout me dit que il faudrait que j'ai des gamins, que je sois mariée ou en route vers ça, tu vois. Tous mes potes me demandent, la première question quand je les retrouve, c'est alors les amours, comment ça va, tu vois. Donc en fait, là-dessus on n'est pas équité, les hommes et les femmes.
Ouais.
Tu vois, mes potes mecs qui ont mon âge et qui sont entrepreneurs, personne ne leur pose la question, effectivement. Ouais. Hein. Ils n'ont pas du tout la même pression. Donc, c'est là-dessus où, là, moi, justement, je suis en pleine réflexion, tu vois, de OK, il faut que je déconstruise des choses, j'en ai conscience. Maintenant, je pars pas du même. Tu vois, je pars avec plusieurs wagons de retard, quoi. sur la liberté vis-à-vis de ça. Donc c'est pour ça que je mettrais 5, tu vois. Parce que je suis en route, mais pas encore totalement accepté ça.
Ouais.
Pas totalement assumé là-dessus.
Moi j'avais bien aimé, je pense que c'était un article de Mark Manson, il disait... arrête de chercher l'amour, genre... Concentre-toi sur toi. Essaie d'être la meilleure version de toi-même, physiquement au moins. Essaie de, tu vois, de faire ton business, de te concentrer, d'apporter de la valeur. Tu vois, fais du sport. Tu vois, cultive-toi, etc. Genre, juste, au moins, mets-toi les ingrédients pour faire en sorte que si ça doit arriver, ça arrive. Et le deuxième truc, c'est ce qu'il appelle les démographics. C'est-à-dire, il dit, en fait, le coup de foudre, les trucs comme ça arrive pas. Genre, si tu habites dans le fin fond de l'Utah, t'as moins de chances démographiquement de rencontrer la mort que si t'habites à New York, tu vois.
Ouais.
Donc en fait, je pense qu'il y a ce double truc de genre, se donner tous les moyens d'essayer d'être la meilleure version qu'on peut être, ou la meilleure, ou au moins une bonne version, et après, essayer de quand même pousser le destin sur ce qu'il appelle les démographics. Et tu vois, il y a trois trucs de... Quand tes grands-parents te voient, ils te disent « comment va la santé ?» Quand tes potes te voient depuis longtemps, ils te disent « comment va les amours ?» Et quand tes potes entrepreneurs te voient, ils te disent comment va le business, tu vois. Mm. Et au niveau du bonheur, de 0 à 10, t'as pas le droit de dire 7.
Ça, je saurais pas trop le mesurer. Parce que c'est fluctuant, tu vois. Il y a des jours où je suis à 10. C'est même pas des jours, tu vois, c'est des heures, quoi, en fait. Il y a des heures où niveau bonheur il est à plus 10 sur l'échelle, et des heures où il est à moins 10, tu vois. Je pense que ça fait partie de la vie et c'est normal. Je pense que le but du jeu, c'est de décourter au maximum les moments où t'es pas forcément bien, ou d'apprendre à les traverser. Mais ils sont inévitables, tu vois. Je pense que c'est normal d'être triste, je pense que c'est bon signe aussi. Je pense que ça serait pas sain, tu vois, de jamais être en colère, de jamais être mal, de... Ça veut dire que rien n'est important pour toi, tu vois. Si tu ressens rien de fort... Moi, je suis quelqu'un de très sensible, je ressens beaucoup de choses très fortes, tu vois, j'intériorise beaucoup. Mais du coup, forcément, ça m'impacte de manière super puissante, quoi. Donc quand ça m'impacte, ouais, ça me hit hard, tu vois. Mais dans l'autre sens aussi. Et je pense pas que ça joue spécialement sur mon état de bonheur de manière générale, tu vois. Par contre... ce que je peux dire, c'est que je peux comparer par rapport à il y a quelques années. Tu vois, on a eu cette discussion avant-hier et je suis d'accord avec ça. Dire par rapport à il y a quelques années, est-ce que je suis plus alignée ? Je dirais ça comme ça en fait. Peut-être pas forcément une notion d'un état constant d'heureux, pas heureux, tu vois. Mais plus, est-ce que je suis alignée avec moi-même, avec mes décisions ? Est-ce que je suis dans la bonne direction, tu vois ? Est-ce que je me sens bien dans mes baskets ? Et ça, ouais, je dirais oui, tu vois. Ça, je travaille beaucoup justement là-dessus pour ne rien regretter, pour assumer mes choix, pour être alignée avec ce que je veux, tu vois. Donc là-dessus, je pense que je m'améliore constamment, tu vois. Et c'est le but, c'est la quête de ma vie permanente. Après, est-ce que j'arriverai à un état végétif, tu vois, de bonheur? Je sais pas, je pense qu'il faut être Bouddha, tu vois, pour ça. Mais Bouddha, du coup, d'ailleurs, en fait, il a pas d'émotion, tu vois. Quasiment pas. Il est dans un état contemplatif, mais il est pas dans un état où il vit les trucs intensément, quoi.
Et dernière question. Qu'est-ce que la vie t'a appris que personne t'avait enseigné?
Qu'est-ce que la vie m'a appris que personne m'avait enseigné?
Quelle est la grande leçon que t'as appris à la dure et qui est importante pour toi?
Ça demande beaucoup de réflexion, cette question. Qu'est-ce que j'ai appris? Je dirais que c'est quelque chose. Alors c'est quelque chose de positif plutôt. En fait, je pense à. Je sais pas si c'est la plus grande leçon, mais c'est la dernière qui me soit arrivée il y a pas longtemps. Donc c'est la première à laquelle je pense, tu vois. C'est l'idée de pas mettre trop de soi-même justement, tu vois. Donc je donne un exemple. Il y a pas longtemps, tu vois, j'ai perdu un client. Ça m'a saoulée parce que j'avais beaucoup d'espoir en fait. Et ça, je pense que c'est un truc où ça, c'est une erreur, tu vois, constante que je fais. Moi, je mets beaucoup d'espoir dans les trucs, je fais des plans, tu vois, sur la comète. Ce qui va avec l'idée de se projeter genre ultra rapidement, tu vois, en fait, qui est l'idée de réfléchir trop, tu vois, en fait, tu sais, j'ai réfléchi trop, donc je vais trop loin dans mes trucs et du coup, ça va avec de l'espoir. Et en fait, quand ça se détruit, tu vois, bah, je suis atterrée, quoi. Et ça, effectivement, tu vois, personne m'avait enseigné le fait qu'il fallait pas mettre trop d'espoir dans les choses. Ça, je pense que c'est vraiment un truc que l'entrepreneuriat, il m'a appris, à pas mettre trop de moi-même dans un truc qui est pas encore arrivé, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tant que le client, il a pas signé, tu vois, j'essaye de pas me mettre à fond. Et ça s'applique à plein de choses dans la vie, tu vois. Je sais pas, si t'as un date avec un mec, tant qu'il est pas là, t'as pas eu le date, tu vois. Tu vois, tu sais, faut pas s'investir en fait, c'est ça quoi. Tant que les choses ne sont pas arrivées, sinon ça devient. C'est ça qui se transforme aussi en anxiété ou en des problèmes en fait que t'as pas, tu vois, dans l'immédiat. En fait, tu te fais des nœuds au cerveau sur des situations qui n'existent pas encore, tu vois, ou qui sont passées à l'inverse. Et je pense que ça, c'est quelque chose, tu vois, que l'entrepreneuriat m'apprend justement. Alors, en fait, ça te ramène systématiquement les pieds sur terre, c'est-à-dire que. Constamment, tu vois, dès que je me fais un petit peu trop d'espoir, t'as l'impression que paf, tu vois, la vie elle arrive et tu te dis non. T'avais oublié, mais fallait pas en fait. Fallait rester hyper distant avec les événements. Et du coup, je retourne à cet état après où je me dis ok, on verra ce qui se passe.
C'est clair parce qu'en fait, tu te mets un up, mais du coup, le down est encore plus fort.
Ouais.
Naval, il y a une phrase, tu dis desire. Is a contract you make with yourself to be unhappy.
C'est ça.
Exactement.
Mais c'est très dur, je trouve, à ne pas faire.
Écoute, sur cette note philosophique, merci Maud.
Merci.
Les amis, pour suivre Maud, LinkedIn, Maud Alaves, Instagram, Maud Alaves, sa newsletter, les persos de Maud, facilement trouvable sur Google. Et
YouTube, Maud Alaves aussi.
Et YouTube, Maud Alaves, on l'a pas publié depuis Mitterrand.
Mais j'ai une vidéo dans les backstage.
Ah, ok. Merci Maud, c'était hyper cool.
Merci.
Ciao.
Ciao.